C'est une joie d'être avec vous, de louer avec vous. Ce que j'aime dans la louange, c'est qu'on n'est pas là, nous, pour faire une performance. On est là pour adorer avec le peuple. Je crois que ce qui plaît le plus à Dieu, c'est que chacun le loue. Ce n'est pas juste que des gens chantent bien ou jouent bien, c'est qu'ensemble, un peuple l'adore. Et ce matin, je vais vous parler un peu de la louange et de l'intercession. Parce qu'on ne peut pas séparer ces deux choses. Et je pense que c'est tellement important que le peuple de Dieu comprenne qu'on est tous appelés à être des adorateurs et on est tous appelés à être des intercesseurs. Alors, aujourd'hui, on voit que les temps avancent, que l'époque qu'on vit n'est pas toujours facile, qu'il y a plein de questions à se poser. Je crois que dans l'Apocalypse, on trouve des réponses, pas juste pour essayer d'expliquer les temps, tout ce qui se passe, mais pour voir comment ça va se passer et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et dans l'Apocalypse, il nous parle beaucoup de deux choses, justement, qui sont la louange et la prière. On va lire dans Apocalypse 5, versets 6 à 14. « Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Quelle adoration merveilleuse! Quelle adoration merveilleuse! Des fois, on craint un petit peu l'Apocalypse en se disant oh là là, ça va être des histoires de guerre, de terreur et de souffrance. Mais dans l'Apocalypse, il y a cette gloire de Dieu qui est présentée, cette louange extraordinaire dans laquelle nous allons entrer et par laquelle nous commençons, dans laquelle nous nous préparons. Et je crois que Dieu nous fait la grâce parfois de vivre des moments de gloire, de grâce déjà sur la terre, qui ont un petit peu ce goût-là, pour autant que on fasse ce que font les anciens, ce que font les hommes qui se tiennent de sa présence, c'est-à-dire qu'ils disent tous ensemble la même chose. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent toute la gloire à Dieu. Il n'y a pas la gloire d'un homme, on n'a pas le nom d'une personne. On pourrait dire, il y a ce grand prédicateur ou ce grand chanteur chrétien qui est là. Non, c'est une foule. C'est une foule d'adorateurs. Un grand nombre, tellement nombreux, on ne sera pas tout seul au ciel. On sera très nombreux, on sera rassemblés avec des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Dieu n'a aucun racisme en lui. Dieu aime et bénit tous les hommes qu'il a créés. Puisqu'il nous a créés différents, il nous aime différents, mais il nous met ensemble. Et il n'y a que lui qui peut nous unir. Il n'y a que lui qui peut nous rassembler, il n'y a que l'adoration qui peut nous rassembler. Si on est focalisé tous sur le même but, si l'adoration elle est pour nous, si l'adoration elle est pour faire ce qui nous plaît, ce sera à côté de la plaque. Mais là, ce qu'ils chantent, vous avez vu ce qu'ils chantent, que des mots pour Dieu. Ils disent gloire, louange, honneur, sagesse. Ce n'est pas bénis-moi. Ce n'est pas remplis-moi, fais-moi du bien. C'est juste l'agneau, la gloire. Merci pour ton sacrifice. Je te loue, je t'adore. C'est une louange extraordinaire. Et j'aimerais bien qu'on puisse voir une fois la vidéo de ça. Mais il n'y a pas d'enregistrement. Mais si on tient jusqu'au bout, comme on l'a dit, comme on l'a chanté avec le premier chant, « Je te louerai toujours », on va louer là-haut et on va vivre ces moments-là. Donc c'est notre espérance, c'est notre attente, c'est d'être dans la gloire de Dieu. Donc l'adoration, elle est pour tout le peuple de Dieu. Elle n'est pas réservée à des spécialistes. Quand quelqu'un me dit « Tu sais, la louange, ce n'est pas mon truc. » Je dis « Quoi, c'est un truc, la louange ?»« Moi, tu sais, moi, je ne sais pas tellement chanter. » Eh bien, tu sais chanter parce que tu as une voix que Dieu t'a donnée. Donc, chante pour Dieu et Dieu, il aime ta voix. Vous savez, c'est comme des parents qui vont pour la première fois au spectacle de leur enfant qui a 5 ans, qui a la première école. Et puis, à la fin de la première année, vers Noël, ils vont faire un petit spectacle, ils vont chanter tous les enfants. Mais les parents, ils sont fous de joie de voir leur enfant chanter. Et puis, ils disent, regarde comme il chante bien, même s'il chante faux, même s'il oublie les paroles, même s'il gratte son voisin, même s'il bouge. C'est un peu comme ça, hein, que ça se passe, hein, ces petites premières soirées scolaires. Regardez mon fils, regardez, ils chantent, ils prennent leur caméra, leur téléphone, ils filment. Moi, j'ai fait ça aussi avec mes enfants. C'est tellement extraordinaire d'entendre la personnalité, l'identité, cet enfant qui chante, qui joue, qui exprime quelque chose à Dieu. En tout cas, maintenant, c'est pour Dieu. Si on parle de la louange, là, ce n'est pas à Dieu dans la soirée scolaire. Mais on se dit, voilà, il donne ce qu'il est. Et j'aime le voir chanter, j'aime le voir donner. Donc Dieu est la même chose, c'est un père pour nous, nous sommes ses enfants. Il aime nous entendre le louer. Donc que personne, plus jamais, ne dise, ce n'est pas mon truc, je ne sais pas chanter. C'est comme si vous faites offense à Dieu en disant « Mais tu ne m'as pas donné une voix à moi ?» Mais on a tous une voix, peut-être que le monde, peut-être que les circonstances, peut-être que votre instituteur vous a dit « Tais-toi, tu chantes faux. » Mais n'écoutez pas ça. C'est ce que Dieu dit qui est important. Dieu dit « Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta louange. Je veux entendre ton adoration. » Et on est tous capables de louer Dieu et les petits-enfants déjà le comprennent. Donc la louange, c'est pour tout le monde. C'est simple, c'est facile. Ne la compliquons pas. Ne rajoutons pas à la louange des choses compliquées. Ouais, mais il faut faire ci, il faut faire comme ça, il faut jeûner, il faut prier, etc. Non, tu peux louer à l'instant même où tu penses à Dieu. Merci Seigneur. La louange, c'est d'abord ça, c'est merci Seigneur. Et cette reconnaissance que Dieu attend de nous, finalement, c'est ça qui est précieux, c'est que Dieu, en étant reconnaissant, on dépend de Dieu. Parce que quand tu dis merci, tu dis merci à quelqu'un qui t'a donné quelque chose. C'est pour ça qu'encore dans notre culture, on a encore des bons restes du christianisme et on enseigne à nos enfants de dire merci. J'espère en tout cas. Hein? Merci pour ce qu'on leur donne, merci pour le repas, merci pour des vacances, merci pour des cadeaux. Pas juste à Noël, quoi. Toute l'année, merci. Merci aux parents. Donc les parents sont juste des gens qui donnent, qui pourvoient à certaines choses. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu et notre Père, il pourvoit à tout pour nous. Donc si on ne dit pas merci, c'est qu'on est toujours dans la demande. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui demande beaucoup. Dans un temps, une époque où tout le monde réclame ses droits et fait des demandes à la société, aux autres, à l'entreprise, au gouvernement et à l'église aussi. Ouais, mais cette église, ils n'ont pas les bonnes chaises, je ne suis pas bien. Ou bien ils ne sont pas venus me voir, personne ne m'a appelé, personne ne m'a visité. On demande toujours plus. Est-ce que vous pensez que le pasteur il peut téléphoner à tous les membres de l'église durant toutes les semaines? C'est juste pas possible. Bien sûr, on se répartit le travail, il y en a plusieurs qui peuvent. Mais n'attendez pas des hommes, n'attendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui donne tout et c'est pour ça qu'on lui dit merci, merci, tu m'as sauvé, tu m'as gracié, tu me pardonnes, tu m'aimes. C'est Dieu qui reçoit la louange en priorité. Et c'est pour tout le monde. Et ça commence par la reconnaissance de tout ce qu'on a reçu. Et on a déjà reçu beaucoup. Des fois, on attend tellement de choses qu'on voit toujours ce qui nous manque. Mais regardez déjà tout ce que vous avez. Et peut-être que de voyager un petit peu, d'aller voir dans d'autres pays, dans d'autres églises, va nous apprendre à être encore plus reconnaissants. Parce que j'ai remarqué qu'en allant dans des pays qui ont beaucoup moins que nous, les gens sont beaucoup plus reconnaissants. Particulièrement en Afrique, il y a moins de choses, moins de richesses. Tu vas en mission pendant une semaine, si tu as la douche une fois durant la semaine, tu dis « Merci Seigneur, il y a de l'eau, on va vite se doucher ». Puis nous, s'il y a une coupure d'électricité pendant 5 minutes, on téléphone au service industriel. Comment ça se fait? Pourquoi? J'ai dit, mais toute l'année, sur 365 jours, tu as eu de l'électricité. Puis là, il y a une heure où ça s'arrête. Bon, ils vont trouver une solution, quoi. Hein, ça prend un peu de temps, mais voilà, merci. Parce qu'on a déjà beaucoup de facilité, beaucoup de grâce dans notre vie. Donc, soyons reconnaissants. Ça fait partie d'une vie chrétienne établie et posée. Pour chacun. Puis ensuite, la louange, c'est dire qui est Dieu, bien sûr. Comme ils l'ont fait dans l'Apocalypse, ils disent qui est Dieu et ils lui donnent toute la louange. Et ensuite, l'adoration, c'est les trois dimensions. C'est reconnaissance, louange et adoration. Adoration, c'est être au pied de Jésus, devant le trône. Il nous a déchiré le voile, on est devant sa présence. Et là, on est émerveillé. Il n'y a pas besoin de prier, de chanter, de danser. On dit, mais il est là. Des fois, juste un gros câlin avec une personne, ça nous fait beaucoup de bien. un big hug, quelque chose, on touche quelqu'un de peu près, eh bien, on est encouragé parce qu'on a vu la personne qu'on apprécie, on lui a témoigné notre amour. Il n'y a pas besoin de faire un grand discours, n'est-ce pas? L'adoration, c'est ce moment d'intimité tout proche de Dieu. Mais ce qu'on voit aussi dans ce texte, et c'est là que j'aimerais vous amener aussi, c'est qu'il parle qu'il y a devant le trône, devant l'agneau, les harpes. Alors les harpes, ça représente la louange, et des coupes d'or remplies des prières des saints. Donc devant la présence de Dieu, il y a à la fois la louange, tout ce qu'on a vu dans ce texte, et en même temps, les prières du peuple de Dieu. Les prières, vous voyez, elles sont récoltées dans des coupes d'or. Vous imaginez comment elles sont précieuses pour Dieu? Chacune de vos prières est récoltée dans des coupes en or. Si ce récipient a déjà de la valeur, ce qui est dedans a encore plus de valeur. Ou ça montre la valeur de ce qui est dedans. Et c'est ça que Dieu nous dit aussi ce matin, c'est que vos prières sont importantes pour Dieu. Des fois, on dit, je vais prier, mais j'ai déjà prié, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Peut-être qu'il suffirait de prier encore, ou de redemander une fois, ou d'attendre dans la paix, et finalement, tout à coup, la réponse va tomber. Peut-être qu'on est à un cheveu de la réponse, puis on arrête au mauvais moment. Donc, on voit cette prière qui se trouve devant le trône de Dieu, ça montre aussi comment Dieu attend les prières de son peuple. Comment l'intercession est importante pour lui. Et on voit dans l'histoire d'Israël l'importance que David avait fait au travers de son tabernacle, au travers de son désir d'accueillir la présence de Dieu, d'accueillir sa présence à lui. Et dans le psaume 132, on voit David, ce grand roi, qui dit « Mais je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai même pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » David avait une vision, une priorité. C'était la présence de Dieu sur son royaume, que Dieu règne. Ça n'a pas été facile, hein? Il a reçu l'onction, il était jeune, il était méprisé par ses frères, même pas compris par son père. Le prophète Samuel arrive, lui donne l'onction, et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne garder ses moutons. Des fois, quand on reçoit une prophétie, une parole du Seigneur, on se dit, voilà, enfin, je vais surfer dans le ministère, sur les nuages spirituels, je vais voyager parmi les nations, je vais toucher les gens. Mais tu vas garder les moutons. Tu retournes à ton boulot. Tu retournes à ton travail. Oh, mais Seigneur, pourtant, tu m'avais promis. Il y a toujours un temps. Notre problème, ce n'est pas la prophétie, c'est le délai, c'est la patience, c'est la persévérance. Et souvent, on aimerait que ça s'accomplisse à l'instant. Et Dieu nous dit, ça va venir. Mais il faut persévérer jusqu'à ce que ça vienne. Et beaucoup ont abandonné, malheureusement, en cours de cette route. La prophétie était juste. Mais tu as méprisé peut-être en disant, mais Seigneur, oh, ça ne se passe pas, donc c'était faux, donc c'est un faux prophète, ou je n'ai pas bien entendu, ou voilà. Alors qu'il suffirait peut-être justement de cette persévérance. Et David a dit, je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce que j'aie accompli ce que Dieu me demande. Et avant d'être roi, il a attendu encore 20 ans. Et pendant ces 20 années, il était en combat avec Saül. Il était poursuivi par Saül, qui a failli le tuer. Il aurait pu lui-même tuer Saül. Il a attendu l'heure de Dieu. Mais au moment où il a été nommé roi, tout de suite, il était chercher l'arche qui était chez les ennemis. Il a ramené l'arche à Jérusalem. Première fois, ça s'est très mal passé. Finalement, après 3 mois de prière, de confession, il l'a ramené correctement, selon les principes qui étaient écrits. Et puis, quand il a ramené cette arche, il a accueilli la présence de Dieu en dansant comme un fou. Attention, il n'était pas tout nu. Hein. Certaines traductions disent qu'il était nu, puis on se focalise sur cette nudité. C'est tellement stupide. Il était juste pas avec ses habits de roi. Il avait déchiré ses vêtements, mais il était là, encore un peu habillé, et il louait Dieu. Ce qui comptait, ce n'est pas qu'il soit roi et qu'on l'applaudisse lui, c'est que le roi des rois, le Seigneur, soit le plus important dans cette procession, dans cette avancée de l'arche. Donc, il a amené l'arche. Et puis, à partir de là, il a établi les Lévites pour que la louange ne s'arrête jamais. Et David est le seul roi pendant lequel tout le règne n'a jamais été vaincu par des ennemis. Il y avait des batailles, les ennemis ont cherché, mais pendant tout son règne, il y avait de la louange et de la prière. il y avait l'adoration continue dans le temple, 24 heures sur 24. Et il y avait cette intercession qui montait, ces parfums qui montaient en même temps dans le temple, sans cesse. Et je crois que c'est un modèle que Dieu est en train de redonner à l'Église et qu'on doit aussi concevoir. Parce que on aime bien mettre des étiquettes et des fois s'arrêter à une manière, dire « Pour moi, mon ministère, c'est la louange. » Et des gens aiment bien nous mettre des étiquettes. « Ah Sylvain, toi, c'est la louange. » Je dis « Oui, c'est la louange, mais comme toi. » On est tous appelés à louer. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Et j'ai réalisé aussi que Dieu me demandait d'être un intercesseur. Parce qu'on est tous appelés, alors qu'on est dans la présence de Dieu, à appeler d'autres à venir adorer. Quand on adore, quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas se réjouir d'être tout seul. On pense à tous ceux qui ne sont pas là, n'est-ce pas ? On pense à ceux de nos familles, on pense à nos amis, à qui on dit, mais si seulement ils connaissaient l'amour de Dieu, ils viendraient adorer avec nous. Et il y en a tous beaucoup autour de nous. Je n'ai pas besoin de vous faire une liste. Vous connaissez tous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez tous autour de vous des collègues, des amis, des gens dans votre propre famille qui ne sont pas encore dans l'adoration. Donc, comment ne pas prier ? Comment peut-on juste se satisfaire d'être bien dans la présence de Dieu, vivant vivement le ciel, qu'on quitte ce monde perdu, pourri, terrible, souffrant ? Non, dans ce monde souffrant, il y a d'autres personnes autour de nous qui souffrent, mais qui n'ont pas Jésus. Et ils souffrent tellement plus. Des fois, quand je passe par des difficultés, quand on vit des deuils, quand on vit des souffrances, on se dit, mais heureusement qu'on a Jésus. Comment on ferait sans lui ? Mais ceux qui n'ont pas Jésus, ils font comment ? Et on le voit très bien avec ce deuil qu'on a eu, ce deuil national, cette souffrance nationale, comment les gens sont désespérés. Il y a eu un petit peu d'espérance parce qu'on s'est rassemblés, parce qu'on a écouté de la musique, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les gens sont désespérés face à la mort, sans solution. Donc, notre cœur aussi, c'est d'être des intercesseurs. C'est de faire monter ses prières et de les déposer devant le trône de Dieu. C'est Dieu qui les prend, qui les met là dans ses coupes d'or. Et on a tous connu ce texte de Ézéchiel 22, verset 30. Il dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Comment peut-on imaginer que Dieu ne trouve pas un seul intercesseur ? Alors, on se dit toujours dans l'église, « Ah, il y a tel frère, telle sœur, lui, il est très, très engagé, lui, il prie beaucoup, heureusement qu'il prie. » Je dis, « Oui, mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui prie bien à côté de toi que tu n'es pas appelé aussi à le rejoindre et à prier aussi. » Mais il faut prier d'une manière simple. Des fois, on se formalise trop, on essaye de dire, « Ouh là là, il faudra que je me mette en prière, il faudra que je jeûne, il faudra que j'aille à la réunion de prière. » Non, au début, je me disais ça, « Quand je serai à l'église, je prierai. » Je dis, « À l'instant même où j'ai une impulsion, je prie. » Que je sois dans ma voiture, que je sois à pied, que je sois en train de déjeuner, que je sois avec quelqu'un, je dis, attends, je vais prier. Et spécialement les non-chrétiens, ils sont des fois un peu choqués. Ah bon, d'accord, tu prieras pour moi. Je dis, non, mais maintenant. Ah bon, maintenant, ici, là, au bureau, là, dans la voiture, là, au restaurant. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Saisissons toutes les occasions de prière. C'est une respiration, la prière. C'est une vie, comme toutes les occasions de dire merci à Dieu. N'attendons pas dimanche matin. Pourquoi des fois le dimanche matin on a de la peine à louer ? C'est parce qu'on a trop longtemps qu'on n'a pas loué. Mais si on a loué le jour d'avant, la nuit d'avant, c'est naturel, c'est une respiration. D'ailleurs, c'est le dernier verset des psaumes, que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est juste pour ceux qui respirent. Donc si quelqu'un ne respire pas, il est exempt de ça, mais autrement pour tous les autres, Dieu attend votre louange. C'est la même chose, la prière. Et je pense aussi tellement à l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Jésus maintenant ? Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Jésus, il est auprès du Père, à la droite du Père, et il intercède pour nous. Le seul ministère qui reste à Jésus, maintenant, c'est l'intercession. On voulait être des exemples, vous voulez suivre Jésus. Jésus est votre exemple, intercédez. Pour ça, il faut un amour profond pour l'homme, pour l'humanité, pour les autres. On a plus facilement tendance à critiquer, à condamner, à juger. « Oh, ça, c'est des païens. » Ou même nos frères et sœurs chrétiens, eux, ils ne sont pas engagés, eux, ils sont ci, ils sont ça. Prie pour eux. Prie pour eux. Ils ont peut-être besoin d'une révélation supplémentaire. Ils ont besoin d'encouragement. Peut-être qu'ils sont découragés. Il y a tellement de choses qu'on voit. Prions, intercédons, c'est notre rôle. Nous portons ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs devant le trône de Dieu. Et Dieu attend nos prières. Dites pas, ah mais moi je ne suis pas un intercesseur. On est tous des intercesseurs. On est tous des adorateurs. Donc laissez pas des mensonges, des fausses conceptions vous empêcher d'être utilisé par Dieu aussi dans la prière. Donc ce que j'aime dans ce rôle de Jésus, c'est qu'un intercesseur, c'est en fait celui qui nous défend. C'est comme un avocat, si vous passez en jugement, vous avez intérêt à avoir un bon avocat qui va bien vous défendre, qui connaît bien votre cause. Bah, quel meilleur avocat que Jésus, hein? Parfaitement, il plaide pour nous. On serait condamné, on serait accusé. Pourtant, Jésus se met devant le Père. Il dit non, gracié, sauvé. Quel cadeau extraordinaire. Donc nous, de même, c'est plus facile de critiquer les défauts, les manquements de nos frères et sœurs ou de non-chrétiens en disant « Ouais, mais quand même, ce qu'ils font, ce qu'ils, etc. » Qu'est-ce que Jésus fait? Il prie pour eux. Il intercède auprès du Père. « Père, réponds ta grâce. C'est encore le temps de la grâce. » Il y aura un jour de vengeance et une année de grâce. On est encore dans l'année de grâce. Mais le jour de vengeance va arriver. Et il faut être prêt. Ce jour, ce sera le jour du jugement. Le jugement sera juste. Parce que Dieu ne fait pas de mauvais jugements. La Bible dit très clairement qu'il est le seul juge et le juste juge. Si on doit passer en jugement une fois, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, je n'ai jamais été au tribunal, mais je sais que quand des gens passent au tribunal, ils nous demandent souvent la prière. En tout cas, s'il y a des histoires des gens qu'on connaît, ils nous disent il faut prier, je vais devoir aller au tribunal. Parce qu'il faut que ça soit juste. Parce qu'on sait justement qu'il y a des mauvais jugements des fois, qu'il y a des mauvais juges, qu'il y a des tribunaux qui ne sont pas exactement justes. Mais le tribunal de Christ, il est juste. Il est parfaitement juste. Dieu ne va faire aucune erreur dans ses jugements. Donc c'est bon de pouvoir nous adresser à ce juge au travers de notre avocat et de devenir pas des accusateurs, des condamnateurs, comme est notre ennemi qui, lui, ne cesse aussi, à l'inverse de Jésus, de condamner les hommes, de condamner les chrétiens. Et combien de chrétiens n'entrent pas dans leur appel, dans leur ministère, juste parce qu'ils sont condamnés dans leur pensée. Ah, oh, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'as pas lu ta Bible. À cause du légalisme, on s'empêche de servir Dieu. Combien de fois j'entends des frères et sœurs qui disent « Ah, oh, tu vois, mais j'aimerais tellement, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » On a entendu tellement de messages qu'on se dit « Mais je ne suis pas à la hauteur. » Comment vous faites avec vos enfants, pour ceux qui en ont? Comment vous faites quand ils font une erreur? Quand ils ont échoué un examen, vous dites, c'est fini, t'es terminé, t'y arriveras pas. J'espère pas, en tout cas. On leur dit, mais attends, allez, on va y aller, on va se reprendre, on va recommencer, je vais t'aider, je vais te soutenir. On fait tout pour qu'ils puissent réussir. Combien plus forte raison Dieu fait aussi pour que notre vie chrétienne, elle réussisse, c'est-à-dire qu'on accomplisse notre appel, notre ministère. Et notre ministère commence par la louange et la prière. Des fois, on s'attend, on se dit, oh, et peut-être que je serai prophète des nations, peut-être que je serai grand prédicateur. Ne faites pas des rêves trop hauts. Commencez tout simple. Et ça, c'est précieux pour Dieu. C'est le plus important. C'est que vous soyez dans cette communion avec Dieu. Et puis, si ça découle sur d'autres choses, ben, tant mieux, merci Seigneur. Mais c'est à lui toute la gloire. Le plus important, c'est soyez à la place où vous êtes. Comme je l'ai dit, vous avez tous autour de vous des gens, même dans vos propres familles, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Commencez à intercéder pour eux, priez pour eux. Au lieu de les condamner, de les juger parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, vous avez reçu la grâce, c'est un cadeau. Donc vous dites merci Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'as gracié. Fais grâce aussi aux autres. Fais grâce à tous ceux-ci qui te rejettent, même qui te méprisent. Soyons du bon côté, du côté de l'intercesseur, de l'avocat, pas de l'accusateur. Demandons grâce à Dieu. Et en faisant cela, on demande aussi grâce pour nous-mêmes, parce qu'on réalise aussi nos manquements, nos échecs. Donc on ne vient pas à Dieu en disant, bon, maintenant je suis un bon chrétien, je suis arrivé au stade suffisant pour pouvoir demander des choses à Dieu. Non, Dieu connaît notre misère. Hein? C'est Jean-Claude Chablot qui disait, on est tous faits de merveilles et de misères. On a des côtés merveilleux en nous, puis on a des côtés misérables parfois. Parce qu'on reste très humain et puis il faut le reconnaître. Et quand on s'approche de Dieu, ben, on passe aussi par la repentance, par la confession. Seigneur, je suis misérable, mais on ne va pas rester dans cette misère. On se relève par la grâce et on commence à prier pour d'autres. Je crois qu'on est dans un temps où non seulement nos frères et sœurs ont besoin de prière, mais nos nations ont besoin de prière. Et je crois que Dieu est en train de redonner cette compréhension à l'Église pour qu'elle prie pour le peuple. C'est tellement plus facile de critiquer les autorités, le gouvernement qui font pas ci, qui font pas ça. Si l'Église ne prie pas pour les autorités, qui va prier ? Les gens qui vont dans la rue, qui font la grève, vous pensez qu'ils prient ? Peut-être qu'il y a quelques chrétiens parmi eux, mais je ne pense pas qu'en général, s'ils font ça, ils vont prier. Ils vont revendiquer, ils vont réclamer, ils vont essayer de trouver une solution humaine. Mais c'est Dieu qui a la solution. Et c'est quand même Dieu qui a mis en place les autorités, les responsables. Je dis, mais comment, Seigneur, tu as pu mettre un gars comme... Je ne dirais pas de nom, mais... Je ne veux pas me tromper. Ou Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu était avec Emmanuel ? En tout cas, c'est Dieu qui les a mis en place. Oh, en tout cas, moi, si j'étais Dieu, je ne mettrais pas celui-là. Hein. Mais vous n'êtes pas Dieu. Et heureusement, parce que si vous étiez Dieu, vous feriez peut-être plus de bêtises encore. N'est-ce pas ? Et si vous étiez vous-même responsable, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont eu des responsabilités politiques ou d'entreprise, plus on a de responsabilités, plus c'est compliqué. Plus c'est difficile, on dit, oh là là, comment je peux faire ? Quelle solution trouver pour mon entreprise, pour mes employés, pour ma commune ? C'est compliqué, c'est difficile sans l'aide de Dieu. Et même avec l'aide de Dieu, ça reste un défi immense. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste la prière, l'intercession pour ces hommes, ces femmes. Et je pense que là, on entre aussi dans une saison qui est souvent dans beaucoup d'églises et de communautés, la semaine universelle de prière, la prière de l'unité. Il y a plusieurs mouvements qui se partagent, mais prions, saisissons ces occasions pour nous rassembler. Mais il faut continuer, c'est pas arrêter au mois de janvier, quoi. Ah, c'est février, c'est fini la prière, maintenant on passe à autre chose. Toute l'année, il y a des sujets de prière. Toute l'année, nous pouvons prier. Alors, c'est mon privilège de pouvoir servir Dieu, entre autres, dans des maisons de prière. On a une maison de prière à Yverdon. Et puis, ben, on est des petits noms, on est des petits groupes, mais chaque fois qu'on se retrouve, on sent qu'on fait ce que Dieu nous demande. Et on ne vient pas pour prier pour nos besoins. C'est aussi ça, les chrétiens savent prier pour leurs besoins. Ça, c'est très facile. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Guéris-moi, guéris-moi. Protège-moi. Mais Dieu, il vous protège. Dieu vous a déjà tout donné. Dieu, il vous guérit. Tout ça, c'est déjà fait. C'est déjà écrit. Il le fait. Il n'y a même pas besoin de lui demander. Il gardera ton départ, ton arrivée. Donc, pas besoin de lui demander s'il veut le garder encore. Si peut-être il a changé d'avis. Il a peut-être oublié. Non, il n'a pas changé d'avis. Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, on se met à prier pour d'autres choses, pas pour nous. On prie pour les autres. On prie pour le peuple, on prie pour le pays, pour les nations, pour d'autres nations. Il y a tellement de besoins. Alors on se dit, bon, c'est trop grand, c'est trop immense, j'arrive pas. Dieu va te partager une petite partie, une toute petite partie. Et tu sens que tu partages un petit peu le fardeau de Dieu pour un peuple, pour une nation, pour une langue, pour une tribu qu'on veut tous voir avec nous dans sa présence, n'est-ce pas ? Alors j'aimerais juste vous encourager ce matin. Vous êtes tous capables d'adorer et vous êtes tous capables d'intercéder. Ne laissez rien vous empêcher et vous transformer en personne qui critique, qui juge, qui analyse tout le temps au lieu d'entrer dans l'action. Au lieu de faire monter devant le trône cette louange, cette adoration et faire monter ces prières qui vont être récoltées devant le trône de Dieu. Vous savez, aucun réveil ne s'est passé sans la prière. On aimerait le réveil, on en parle du réveil, on veut voir le réveil. Si on ne prie pas, on est sûr que ça ne va pas marcher. Ça, c'est une chose est sûre. Par contre, si on prie, on donne une chance à Dieu d'agir et de changer nos cœurs et de changer nos vies. Alors, je vais prier et puis on va prendre avec le groupe la louange, qui peuvent déjà venir. Et puis, on va continuer en plus au travers des chants, d'élever le Seigneur, et de nous tourner vers lui, d'écouter son esprit, et d'avoir nos cœurs focalisés sur lui. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous juges même mieux que nous-mêmes. Tu nous rends capables de faire des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire. Tu nous rends participants à tes plans, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu nous ouvres les yeux sur le monde, sur les nations. Merci, Seigneur, d'élargir nos cœurs. Qu'on ne soit pas toujours focalisés sur nous-mêmes, sur nos propres besoins, mais qu'on puisse aussi connaître tes besoins à toi, Seigneur. Ton amour pour ce monde, ta grâce pour ce monde, et y participer, et donner tant d'amour que tu nous as donné, le partager aussi autour de nous, au travers de nos prières. Merci Jésus, tu bénis chacun de mes frères et sœurs et je prie que chacun puisse grandir dans sa vie de prière et de louange. Amen.